Docteur Janvier, bonjour.
Oui, bonjour.
Je le disais en introduction, Respire bébé, respire, c'est un récit qui est bouleversant. Ça m'a habité pendant des jours, là, la lecture du bouquin, s'inspirer de votre famille, une famille extrêmement courageuse. Écrire un moment difficile de votre vie. D'abord, écrit en anglais pour créer une distance. J'imagine, Violette, Annie Janvier, elle a aujourd'hui 10 ans. Est-ce que c'était le temps qu'il vous fallait pour prendre du recul face à cette histoire?
Dans le fond, est-ce que c'est le temps du recul? Il y a non seulement que j'ai écrit ça par petits bouts que j'ai trouvé par hasard à un moment donné. J'ai pas vraiment écrit ça comme un journal intime. C'était plus un échappatoire qui, j'avoue, j'aurais probablement pas pu écrire en français dans un journal intime. J'écrivais à mon ordinateur en anglais, donc il y avait déjà une distance. Fait que j'ai pas écrit ça dans le but d'écrire un livre, mais par la suite, dans mon travail, ben j'ai fait des conférences en éthique clinique, j'ai parlé à beaucoup de parents, j'ai écrit d'autres histoires sur des bébés, puis un autre livre qui a commencé à prendre forme, puis par la suite, j'ai pensé inclure mon histoire là-dedans. Il y avait aussi le fait que je voulais que ma fille connaisse son histoire. Avant de la publier, qu'elle sache qu'elle avait failli mourir, puis où est-ce qu'elle avait été, qu'est-ce qui s'était passé, pour pas que tout d'un coup, ben, elle apprenne qu'il y a un livre sur elle quand elle soit, avant de l'avoir appris, en fait, de ses parents. Mm-hmm. Fait que c'est un peu toutes les raisons. Puis là, la plupart des parents que je vois sont francophones. En fait, il y a des chapitres qui ont été écrits en français. Ma voix de médecin, ma voix d'éthicienne, ma voix de maman de maintenant. Mm-hmm. Puis la plupart des chapitres tous les chapitres de Quand Violette était malade ont été écrits en anglais. Il y en a plusieurs, en fait, je me souvenais même pas d'avoir écrit.
Oui. Annie, ce livre-là est bien sûr votre histoire, mais également à travers le récit, c'est l'histoire de toutes les familles que vous avez rencontrées au cours de votre carrière en néonatologie. Une espèce, je le ressentais comme ça, d'hommage à ces familles-là parce qu'elles vous ont inspiré et elles vous ont appris à être une meilleure mère pour Violette à quelque part.
Oui, souvent la question, c'est ben, comment ça t'a changé comme médecin d'avoir Violette, d'avoir un bébé malade dans ton unité de bébé malade comme médecin de bébé malade. Et en fait, c'est plutôt la question opposée. C'est en fait une chance que j'ai rencontré toutes ces familles-là avant d'accoucher. Parce que même si on se le dit, ça doit être difficile ou il faut du courage ou il faut de la résilience, de le vivre, c'est tout à fait autre chose. Fait que c'est vraiment ces familles-là qui m'ont aidée, en fait, à être une meilleure mère. Et si je les avais pas rencontrées, honnêtement, j'aurais été perdue. Puis c'est vrai, rencontrer toutes ces merveilleuses familles-là, puis ces bébés malades qui, la plupart, s'en sortent, et ces familles-là qui traversent toutes ces épreuves, ben ça nous fait aussi des meilleures personnes, puis des meilleurs soignants.
Oui. J'imagine, Annie Janvier, que lorsque l'on met un enfant au monde, un enfant à terme, parce que vous êtes aussi la mère d'un enfant né à terme, il y a oui. plein de questions là, qui nous viennent en tête. Est-ce que mon enfant va être en santé? Est-ce que je vais être un bon parent? Est-ce qu'il va ressembler à grand-maman, à mon conjoint? Lorsqu'on met au monde un enfant prématuré, il y a aussi d'autres questions, mais c'est totalement différent. C'est quoi les questions récurrentes qui viennent en tête?
Bien, dans le fond, quand on met un enfant... Je ne sais pas comment dire normal, parce que c'est dur à définir la normalité. Ouais. Il y a quand même toutes ces questions-là dans la société. On essaie d'être une bonne mère potentielle. On ne mange pas tout ce qu'on dit de ne pas manger, on ne prend rien, on ne sort pas. En tout cas, on est comme cloîtré pendant notre grossesse. Mm. Puis on a comme l'impression naïve que si on fait tout ce que le docteur nous dit, puis la société nous dit, puis c'est imposé sur nous, on va avoir un bébé qui va être bien et en santé. Et quand tout d'un coup un bébé arrive pas en santé, parce que mon livre c'est aussi sur les bébés qui ont des malformations cardiaques, ou en fait tous les bébés qui sont en néonatologie, où les parents, dans le fond, quand on a un bébé, on espère de le tenir dans ses bras, de le prendre dans notre chambre en maternité, puis d'aller à la maison rapidement.
Ouais, on n'imagine pas qu'il va être sous observation avec un respirateur pour l'aider à respirer.
Oui, puis avec des électrodes, puis avec toutes sortes de choses. Fait que c'est, il n'y a pas juste des prématurités en néonat. La première question qui vient, c'est pourquoi c'est arrivé?
Ouais.
Pourquoi moi? Moi, j'ai tout fait ce que je devais faire. J'ai pas bu de café, j'ai pas pris de sushi, j'ai pas pris de machin, je peux aller dans des bains tourbillons. En fait, maintenant, la liste de choses qu'on peut pas faire quand on est enceinte est rendue genre une Bible ou bien un dictionnaire. Fait qu'ici, la première chose, c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire pour pas que ça arrive? Puis c'est une question qui reste là longtemps, souvent toute la vie des mamans, même si elles se répètent dans leur tête que c'est pas de leur faute, il y a quand même un poids à porter de dire, de revenir dans le temps puis dire, si j'avais pas fait ça, peut-être que ça serait pas arrivé.
Oui. Et c'est même arrivé dans votre tête de scientifique, de médecin, pédiatre spécialisé en néonatologie, à savoir qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Et pourtant, vous l'expliquez assez bien dans le livre. Il n'y a pas nécessairement de cause à mettre un enfant prématuré. Là, les mères n'ont rien fait de mal. Ça arrive et c'est tout.
La plupart du temps, c'est ça, c'est la nature, comme je dis aux parents, qui est vraiment life, nature's a bitch. Là, c'est pas les parents. Puis c'est comme les malformations congénitales, mais c'est sûr que même si on le sait avec notre tête, je pense que dès qu'on est mère puis qu'il y a quelque chose à notre enfant, bien, on se demande comment on aurait pu faire pour prévenir ça, parce que c'est notre rôle. Il y a peut-être quelque chose de différent avec la prématurité, c'est la maladie en tant que telle, c'est pas une vraie maladie. Mm-hmm. En fait, la médecine, elle fait la job que le ventre est supposé faire. Puis elle a fait beaucoup moins bien qu'un ventre de maman. Fait que nous, on nourrit notre bébé à travers le placenta, il grossit à la bonne température tout le temps. Puis dans le fond, en néonatologie, on nourrit par les veines, après ça par un tuyau. L'oxygène, se rend avec un respirateur. Après ça, fait que c'est des choses, dans le fond, c'est comme ça remplace mon ventre, mais ça le remplace mal. C'est aussi cette image-là que c'est pas comme une maladie. On attrape une bactérie, on tue la bactérie, ou on a un cancer, on tue les cellules cancéreuses. C'est quelque chose de différent.
Mm-hmm. Annie Janvier, je le disais, ce livre-là est extrêmement touchant, mais en même temps, de par votre formation, il est informatif aussi. Moi, je savais qu'un bébé qui était né là, avant 40 semaines, on pouvait dire qu'il était prématuré, mais vous amenez vraiment des notions, des explications. On peut dire avant 37 semaines prématurées, mais lorsque c'est comme Violette à 24 semaines, quel terme on peut employer?
On parle d'extrême prématurité. Souvent, il faut se rappeler que les extrêmes prématurés, il n'y en a pas tant que ça. C'est 0,8% des naissances. Fait que c'est moins qu'un pour cent des naissances. Fait que c'est des bébés qui naissent dans 28 semaines et moins. C'est pas beaucoup de naissances. La plupart des bébés prématurés naissent entre 32 semaines et 40 semaines. Il y a 8% de bébés prématurés qui naissent au Canada, au Québec. Mm-hmm. Fait qu'à peu près 8%. Fait que la grande, grande majorité des prématurés, c'est des prématurés qu'on appelle légers. Mais c'est certain qu'il y en a tellement, tellement, tellement de prématurés légers. Vous voyez, 8% des naissances, c'est presque une naissance sur 10.
Oui.
C'est quand même aussi c'est pas rien en coût économique et en coût émotif des familles.
Oui. Et c'est quoi les impacts sur la santé d'un bébé qui est un extrême prématuré?
Fait que dans le fond, quand les bébés naissent avant 28 semaines, il y en a beaucoup, en fait, qui sont... Quand on parle, il y a la fonction à long terme qu'on appelle médicale. Donc, quand on regarde ce qui se passe dans la santé de ces enfants-là, il y en a à peu près la moitié qui ont un développement normal puis qu'on n'est pas capable de faire la différence entre un bébé né à 25 semaines d'un bébé né à terme. Ensuite, il y en a 10 à 15% qui ont des handicaps qu'on appelle sévères, c'est-à-dire une paralysie cérébrale qui est généralement un problème de mouvement des jambes seulement, pas des bras. Il y en a 1% qui peuvent souffrir de cécité. Il y en a peu, 1% aussi à peu près au même moins qui peuvent souffrir de surdité. Et il y a quand même pas mal de troubles d'apprentissage. Il y a à peu près 1 sur 3 qui a des problèmes à l'école ou d'hyperactivité ou de dyslexie. Fait que c'est quand même pas rien. Par contre, quand on regarde chez ces enfants-là, quand ils sont plus vieux pour juger leur qualité de vie et quand on demande aux parents quelle est leur qualité de vie, quand on compare les enfants à terme aux enfants nés extrêmement prématurés, les enfants disent qu'ils ont une bonne qualité de vie. Dans le fond, les choses sont importantes pour les enfants et les familles, avoir des amis, être heureux, aller à l'école, se sentir intégré dans les activités. Quand on compare la moyenne des extrêmes prématurés avec celle des enfants à terme, elle est similaire.
Et ça me fait penser, en vous écoutant, Dr. Janvier, que ces familles-là, beaucoup de parents vous ont dit « Mon bébé, c'est pas une statistique. Je réfléchis, je prends les décisions avec l'amour que j'ai pour lui et non pas avec ce que vous pouvez amener avec les données scientifiques. » Est-ce que ça a également guidé vos décisions, même si vous êtes une scientifique à la base?
Bien, c'est certain, quand on dit 50%, comme médecin ou 80% comme médecin ou 90%, 90 c'est beaucoup, 100% c'est la moitié. Mais quand c'est ton bébé, il n'est pas à moitié mort, là. Il est ou mort ou il est vivant.
Ouais.
Fait qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Mais même dans le monde du cancer, on voit ça aussi. Quand on dit qu'il y a 80 % de décès, la plupart des adultes désirent une chirurgie parce qu'il y a quand même 20 % qui survivent. Puis c'est, on ne voit pas les chiffres de la même manière quand c'est des enjeux de vie et de mort que quand c'est pour décider, je ne sais pas moi, de quel genre de yogourt on va acheter à l'épicerie.
Oui.
Fait que c'est, même si on dit 50 % pour un patient, pour un parent, c'est 0 ou 100. Puis les vraies questions deviennent, ben, est-ce que ces familles-là sont heureuses? Est-ce que ces enfants-là sont contents? Est-ce qu'ils ont des amis? Puis il n'y avait pas tant d'articles que ça quand j'étais... quand moi-même, j'avais Violette il y a 10 ans, il y en a de plus en plus. Puis on voit, en fait, on voit que même pour les enfants qui ont une trisomie 21, qui est un handicap beaucoup plus sévère que d'être né prématurément, parce qu'il y a quand même presque toujours des problèmes intellectuels, on voit que ces familles-là, malgré le fait que nous, on les définisse par des chiffres puis des symptômes, qu'on définit tout le négatif, on définit pas le positif.
Mm-hmm.
On ne dit pas que ces familles-là sont heureuses, on ne dit pas que ces enfants-là sont heureux. On ne dit pas que ces enfants-là ont des amis qui sont capables de jouer. Fait qu'il faut faire attention aussi comment les médecins décrivent les choses. C'est souvent avec une liste de diagnostics négatifs.
Oui.
Et pas souvent avec 80 % de bonheur,
voilà.
30 % de joie de vivre.
Oui, oui, il n'y a pas d'indice de bonheur là, dans ces chiffres-là. Maintenant, à la fin du bouquin, vous donnez une espèce de petit guide à savoir comment s'en sortir pour les familles qui ont eu un enfant prématuré. J'aimerais vous entendre là-dessus, à savoir vos conseils pour ces familles-là qui traversent cette épreuve.
Dans le fond, le premier, c'est un peu de sortir du cercle vicieux de la culpabilité, de dire ben, si j'avais, puis si j'étais, puis si on avait... parce qu'on fait juste du surplace pour l'avoir fait moi-même pendant des mois ou peut-être même des années. Ça aide pas que la famille nous demande régulièrement ben, pourquoi c'est arrivé. Puis il me semble que tu as tout fait correct. Puis c'est-tu parce que tu étais debout toute ta grossesse?
Mm-hmm.
Fait que déjà, le premier, c'est le chapitre de la culpabilité. Composer avec les autres, je pense qu'il faut être capable de juste raccrocher le téléphone puis d'inventer n'importe quelle raison pour plus parler à ceux qui nous font mal sans vouloir le faire.
Vous alliez tirer votre lait.
Moi, je disais, il faut que j'aille tirer mon lait. Parce que c'était trop... c'était les questions que les gens posent. Si elle meurt... Puis c'est, en fait, on dirait que quand on a une bonne journée, les gens essaient de nous descendre un peu pour qu'on soit réaliste. Puis quand on a une très mauvaise journée, ils essaient de nous remonter. Puis des fois, de manière très malhabile. Puis c'est pas parce qu'ils veulent mal faire, mais c'est dur de répéter aussi 10 fois par jour comment ça va mal. Fait que l'autre conseil que je donne aux parents, c'est, dans le fond, de se trouver un porte-parole, de trouver quelqu'un qui va parler pour eux pour pas toujours répéter les mauvaises choses que ça finit par nous ruiner le moral, ou d'avoir une page Facebook, ou d'avoir quelqu'un qui écrit des courriels pour eux, ou quelqu'un qui prend le téléphone puis qui appelle les gens importants. L'autre chose qui est importante, je pense, c'est de faire sortir le méchant. J'ai écrit ça comme ça, mais c'est un peu quand les gens disent « allez vous reposer », c'est de se défouler de la manière qui fonctionne pour nous. Souvent, il y a des manières génériques dans notre société de dictature du bonheur, de comment faire sortir le méchant, genre les méditations, le yoga. Mais il y a certaines personnes, c'est la boxe, d'autres, c'est écouter du hard rock, d'autres, c'est jouer à des jeux de société. Fait que de trouver un échappatoire pour que le petit hamster dans le cerveau arrête de tourner. Puis aussi prendre sa place. Parce qu'on arrive comme parents en néonatologie, même quand je connaissais, moi, toutes les machines, j'aurais pu les régler, je savais comment mettre les cathéters et tout ça. C'est pas la même chose. En fait, même si j'étais un médecin, là, puis je savais quoi faire avec la machine, je savais pas comment être la maman d'un bébé sur une machine.
Mm-hmm.
Puis dans le fond, c'est d'apprivoiser la néonate. Souvent, malheureusement, les parents, ils pensent que c'est en connaissant toutes les machines qu'ils vont l'apprivoiser. Mais c'est plus en prenant sa place et en disant, comment est-ce que je peux être un parent en néonatologie? Comment je peux faire l'horaire pour mon bébé? Quand est-ce que je vais tirer mon lait? Quand est-ce que je peux changer sa couche? C'est d'être impliqué dans ses soins, puis de ne pas avoir peur de demander l'horaire des visites, quand est-ce qu'on peut appeler, quand est-ce qu'on vient, qui peut venir, comment on peut s'occuper de notre bébé.
Mm-hmm.
Puis souvent, les parents sont les premières semaines à apprendre, le respirateur, il pousse combien de pourcents d'oxygène. Mais une fois qu'ils ont fait le tour de la question, ils sont aussi démunis parce que c'est pas l'oxygène nécessairement qui est important, c'est comment être le parent de ce petit bébé-là.
Oui, et vous soulignez aussi l'importance pour le parent d'arriver à exprimer ses besoins aux professionnels de la santé. C'est souvent une grosse équipe en néonatologie, mais il est possible de communiquer avec ces gens-là. Et il y a vraiment un passage très mignon, Annie Janvier, où vous donnez des exemples de parents qui écrivent des petits cartons, qui laissent à côté du berceau de l'enfant pour un peu exprimer aux spécialistes, eh bien voilà, c'est comme ça qu'il faut faire avec mon bébé.
Oui, puis toutes les familles sont différentes, puis je pense des fois on oublie ça comme médecin, comme on a nos statistiques, puis tous les bébés, bien c'est sur 100 bébés, bien les parents, il y en a qui ont 3 enfants à la maison, ils vont être moins là. Il y a des mamans qui c'est leur premier bébé, puis elles habitent à l'hôpital, dans le fond, à Sainte-Justine, à Cachou. Et c'est pas du tout la même chose. Il y en a une qu'on va appeler aux 3 heures pour venir tirer son lait, allaiter, changer la couche, puis il y en a une autre qui va aider les 3 autres enfants à faire leurs devoirs, puis à les faire manger, puis aller les coucher pendant la soirée. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment important pour les parents de dire, ben voici ma famille, voici comment vous pouvez m'aider, puis voici comment on peut faire un plan de soins ensemble pour soigner mon bébé.
Oui, et ça ramène à l'importance de ne pas se comparer avec les autres mères, les autres familles. Il y a beaucoup de parents en néonatologie et tous les bébés sont uniques, toutes les familles le sont également, donc de vraiment se dire qu'on fait le mieux pour nous sans regarder ce qui se passe à côté, parce que ça peut devenir très, très cruel là, quand on voit notre enfant faire moins de progrès que l'enfant à côté, et vous l'avez vécu avec Violette.
Et vous avez bien lu mon livre, je pense que vous allez faire les entrevues à l'avenir pour moi.
Ben, ça me ferait plaisir, dans le sens où...
C'est tellement dur, mais en fait, c'est partout en santé. Quand on a un cancer, on se compare aux autres maudits qui n'ont pas eu cette complication-là, puis on se trouve bien bon d'être capable de se mettre sur pied au bout de 4 jours à la place des autres tweets qu'ils ne sont pas au bout d'une semaine. Mais quand c'est notre bébé, mon Dieu, qu'on devient maudit quand on voit qu'il y a un autre bébé qui fait mieux que notre fille ou qu'on capote quand il y a un autre bébé qui est mort à côté d'une autre. C'est très difficile de se dire « Violette, c'est Violette, moi, c'est moi, les autres bébés, c'est les autres bébés ». Je veux dire, on les voit quand même, puis quand on se compare, on se console, mais on peut aussi se devenir très malheureux.
Oui. En terminant, Annie Janvier, est-ce que les professionnels de la santé dans les hôpitaux, dans les unités de néonatologie sont vraiment au courant des besoins de ces familles-là?
De plus en plus, je crois, il y a vraiment on commence à plus personnaliser les soins à la place des standardisés pour tout le monde. On commence de plus à faire des initiatives centrées sur la famille à la place d'être juste centrées sur le patient. En ce moment, par exemple, dans beaucoup d'unités néonatales comme la nôtre, on a des parents partenaires qui nous aident à, par exemple, rédiger le fascicule des mm-hmm. visites ou qui nous aident à dire, ben, comment est-ce qu'on pourrait aider votre expérience? Puis qui sont là? Moi, je suis un peu des deux côtés de la médaille, fait que des fois, mm-hmm. c'est plus difficile à réfléchir, mais d'avoir des parents qui sortent et disent, ben, savez-vous, ça aurait pu être mieux fait. Puis dernièrement, on a fait un questionnaire, puis il y a des places où on manque complètement le bateau et d'autres places où nous, on se disait qu'on n'était pas très bon, puis les parents nous trouvent formidables. Fait qu'il y a ça aussi que des fois, en se regardant nous-mêmes, on ne voit pas nécessairement ce qui va bien ou pas. Fait que je pense que dans la santé en général, il y a de plus en plus de place pour le partenariat des patients, des familles, puis c'est vraiment tant mieux.
Docteur Annie Janvier, je le rappelle, vous êtes pédiatre spécialisée en néonatologie et en éthique clinique du côté du CHU Sainte-Justine. Vous êtes également maman d'un enfant prématuré. Vous avez relaté votre histoire à travers le livre « Respire, bébé, respire, prématurité et naissance difficile ». C'est publié chez Québec Amérique et on s'attache beaucoup à votre famille. Je les salue et je vous souhaite un bel après-midi.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci, au revoir.